Et le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. La démission de Theresa May aujourd'hui et ses conséquences. Nous irons à Londres en début de journal retrouver notre correspondant Antoine Gignot. Et puis nous ferons un tour d'Europe, des réactions avec Marie-Pierre Véraud dans un contexte de Brexit et en plein scrutin européen. Nous irons également en République tchèque où les opérations de vote ont commencé pour les européennes et où Andrej Babiš semble sortir renforcé de la campagne. Nous prendrons également des nouvelles des Outre-mer avec Steven Gouayer. Et puis l'enquête de cette édition également au sommaire de ce journal, signé ce soir Philippe Reltien de la cellule d'investigation de Radio France sur la mort d'un ancien agent de la DGSE assassiné fin mars en Haute-Savoie, probablement en raison de son implication dans un obscur complot sur fond de Roland de la France-Afrique. L'image de Theresa May, les larmes aux yeux face à la presse devant le 10 Downing Street, annonçant la date de sa fin politique. Elle démissionnera de la présidence du Parti conservateur le 7 juin. Cette image servira-t-elle d'illustration symbolique dans les livres d'histoire à l'avènement définitif du Brexit? Pour de nombreux responsables politiques européens, le doute est de moins en moins permis et les réactions aux tonalités plutôt pessimistes sont nombreuses partout en Europe. On va y revenir. Mais d'abord, essayons de comprendre ce qui se joue politiquement à Londres. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Envoyé spécial permanent de France Culture dans la capitale britannique, on n'en attendait pas moins de Boris Johnson, l'ancien maire de Londres. À peine la déclaration de Theresa May était-elle terminée que Bojo annonçait comme évidente sa candidature au poste de Premier ministre.
Boris Johnson, oui, favori, grand favori même parmi les candidats à la succession. Il est largement en tête chez les bookmakers. 39% des Britanniques, selon un dernier sondage YouGov, sont favorables à l'arrivée de l'ancien maire de Londres et ancien ministre des Affaires étrangères à Downing Street. Il a largement, d'ailleurs, organisé ces dernières semaines la fronde qui a fini par obliger Theresa May à quitter son poste. Et il profite aujourd'hui d'une conférence en Suisse pour saluer le calme et le stoïcisme de la Première ministre, tout en lançant sa campagne électorale. Avec comme principal mot d'ordre une sortie rapide de l'Union européenne, quitte à revenir aux règles de l'OMC, avec ou sans accord commercial, dit-il, nous serons dehors le 31 octobre prochain. Évidemment, il n'est pas le seul à vouloir devenir Premier ministre. Il y a aussi Dominic Raab, l'ancien ministre du Brexit, et puis deux membres du gouvernement, Jeremy Hunt, Michael Gove, quelques autres outsiders. Le processus de désignation va prendre du temps. Les candidats ont jusqu'au 10 juin pour se faire connaître. Il y a ensuite plusieurs votes des députés. Il reste donc un mois, peut-être un mois et demi de flottement politique avant le véritable changement à Downing Street.
Voilà, tout va durer un peu, Antoine. Et y a-t-il dans les soubresauts auxquels on peut s'attendre dans le mois qui vient, des raisons de penser qu'un Brexit dur peut encore être évité ?
Ce sera compliqué, ce sera très compliqué parce que l'ensemble du parti a l'air de se diriger vers cette solution-là. Et si le prochain Premier ministre décide d'aller vers une sortie sans accord, les députés auront beaucoup de mal à s'y opposer parce que l'équilibre des forces au Parlement ne change pas. Les conservateurs ont toujours trop peu de sièges pour avoir la majorité et ils ne vont pas vouloir, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, prendre le risque de contester la direction centrale du parti en risquant de provoquer ce que la gauche réclame. Depuis des mois, des élections législatives anticipées qui pourraient permettre aux travaillistes d'arriver au pouvoir.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres pour France Culture. Partout en Europe, les réactions ont été rapides à cette démission de Theresa May. Aucune surprise évidemment ne se lit dans les différents communiqués, mais le sentiment semble-t-il partagé qu'on n'a jamais été aussi proche du Brexit. À Bruxelles, en revanche, on reste prudent mais ferme. Marie-Pierre Véraud.
Surtout ne pas laisser croire que la démission de Theresa May ouvre la porte à un nouvel accord de sortie. Rien ne change, martèle la Commission, dont l'actuel président Jean-Claude Juncker se dit prêt à travailler avec le prochain Premier ministre britannique, quel qu'il soit, mais pas forcément pour rediscuter les termes du retrait. Une ligne partagée aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte a été le plus ferme. L'accord n'est pas ouvert à la renégociation. Cela ne marche pas ainsi en Europe, abonde le ministre irlandais des Affaires étrangères, balayant l'idée qu'un nouveau chef de gouvernement plus exigeant obtiendrait plus ou mieux de l'Union. Mais à Paris comme à Berlin, c'est la prudence qui domine. Tout en appelant à une clarification rapide, Emmanuel Macron estime qu'il est trop tôt pour spéculer sur les conséquences de cette démission. Une analyse partagée par Angela Merkel. Tout dépend des évolutions de la politique intérieure britannique, botte en touche la chancellerie. Angela Merkel qui assure qu'elle va œuvrer à un Brexit ordonné. Madrid emploie un langage moins diplomatique. La porte-parole du gouvernement estime en effet qu'un Brexit sans accord est désormais quasi impossible à arrêter. Quand le Premier ministre irlandais ne cache lui pas son inquiétude, il redoute que le Brexit n'entre dans une phase très dangereuse pour l'Irlande, avec le risque du retour d'une frontière physique entre les deux parties de l'île et le spectre de nouvelles violences.
Marie-Pierre Véraud. Cette démission de Theresa May arrive au lendemain du vote britannique pour les élections européennes, dont on ne connaîtra le résultat que dimanche soir, au moment où les isoloirs seront fermés dans les 28 pays concernés. En République tchèque, le vote est également anticipé. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 14h ce vendredi, mais comme on pouvait s'y attendre, ils n'attirent pas les foules. Retour sur les derniers épisodes de la campagne tchèque, dont le Premier ministre sortant Andrej Babiš semble sortir favori avec Alexis Rosenzweig.
Je vous demande de ne pas parler de mon ancienne entreprise, dit sur un ton autoritaire le Premier ministre tchèque Andrej Babiš à propos de l'empire agrochimique qu'il a fondé, en réponse à la présentatrice du dernier débat électoral diffusé par la télévision publique. Le milliardaire ne porte pas sa casquette rouge copiée sur celle de Donald Trump et il est sous pression, menacé d'un procès pour fraude aux subventions européennes et dans le collimateur de Bruxelles en raison de ses conflits d'intérêts. Mais ce débat télévisé, comme toute la campagne pour les européennes, est loin d'avoir passionné des Tchèques qualifiés d'eurosceptiques. Le quart de finale de l'équipe nationale au mondial de hockey sur glace a d'ailleurs rassemblé 10 fois plus de téléspectateurs. La formation au pouvoir reste en tête des intentions de vote, et ce, malgré plusieurs grands rassemblements organisés à Prague ces dernières semaines pour l'indépendance de la justice et contre Andrej Babiš. Les manifestants lui reprochent de faire régresser l'état de leur démocratie 30 ans après la chute du communisme, mais la majorité reste silencieuse. À peine supérieure à 18% il y a 5 ans, le taux de participation s'annonce encore très faible cette année. Et pour peu que les hockeyeurs tchèques se qualifient pour la finale, les résultats de l'élection publiée dimanche soir seront une information qui ne passera qu'au second plan.
Alexis Rosenzweig à Prague. En France, les opérations de vote pour les européennes débuteront demain samedi à midi, heure de Paris, au moment précis où les horloges indiqueront 8h à Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de Terre-Neuve, dans l'Atlantique Nord. Bonsoir Steven Goyer.
Bonsoir.
C'est une habitude, hein, les Outre-mer votent de manière anticipée en France. Alors comment la question européenne a fait respirer des campagnes électorales qui, comme partout, se sont largement nourris des questions locales et, en l'occurrence, des spécialités ultramarines?
Eh bien, les départements, régions et collectivités d'outre-mer n'échappent pas à la dynamique écologiste et agricole qui a semblé dominer une bonne partie de la campagne avec, à gauche surtout, des propositions environnementales concernant les problématiques locales. On pense par exemple à la préservation des mangroves proposée dans le programme de Raphaël Glucksmann, créer une cour européenne de l'environnement pour lutter notamment contre le scandale sanitaire du chlordécone aux Antilles pour Benoît Hamon, ou encore l'augmentation des fonds de la politique agricole commune allouée aux Outre-mer du côté de la France insoumise. Pour la liste Renaissance de Nathalie Loiseau, une seule proposition, passer de 4 à 30% de zones marines européennes protégées par Natura 2000. On trouve aussi des propositions plus institutionnelles, comme du côté du Rassemblement National qui souhaite créer une agence européenne pour la mer qui serait localisée justement aux Antilles, quand Nicolas Dupont-Aignan, dans une perspective plus franco-française, veut s'opposer dans son programme à la suppression de France O. Les Républicains, un petit peu plus flou, propose, je cite, d'adapter la législation européenne aux caractéristiques et besoins des Outre-mer. Et ces besoins n'ont sans doute pas eu la résonance nécessaire tout au long de cette campagne. Plusieurs têtes de liste ont fait le déplacement aux Antilles ou à La Réunion, comme Jordan Bardella, Manon Aubry ou Raphaël Glucksmann. Mais avec un écho plutôt limité dans l'Hexagone, la seule intervention notée et remarquée restera sans doute celle de Nathalie Loiseau, qui, conviant les journalistes à la suivre pour une messe à Sainte-Clotilde, avait déclenché la polémique. Et pourtant, renforcer le lien entre l'Union européenne et ses territoires très éloignés géographiquement semblent aujourd'hui nécessaires. Dans les territoires ultramarins, en 2014, l'abstention pour le scrutin européen avait atteint les 83%.
Merci Steven Goyer. On apprend à l'instant que, selon des sources concordantes d'après l'AFP, une explosion à Lyon dans une rue piétonne aurait fait 6 blessés. On n'en sait pas plus pour l'instant. Une mobilisation relativement faible des jeunes pour le climat aujourd'hui. En tout cas, Mobilisation moins importante, environ deux fois moins importante qu'au mois de mars dernier. Ils étaient environ 15 000 à Paris pour cette deuxième grande journée de grève mondiale pour le climat, afin de réclamer aux dirigeants politiques davantage d'actions contre le réchauffement planétaire. Bonsoir Solène Cresson.
Bonsoir.
C'est une manifestation qui intervient, et ce n'est pas anodin évidemment, à deux jours en France du scrutin européen.
Au milieu des slogans déjà bien connus, scandés régulièrement, ils sont nombreux, sous le soleil de Paris, à lever bien haut leurs pancartes, faites le plus souvent d'un simple carton.
Moi, il y a marqué « Niquez pas vos mères », parce qu'on va pouvoir arrêter de prendre du plastique, on le met dans la mer et tout.
T'es plus bonne sans carbone.
Plus d'arbres, moins de cons. Derrière, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître.
Ils ont 16 ans, 14 ans et même moins, comme ces élèves de 5e, des joues encore un peu rondes de l'enfance, mais des discours déjà bien construits.
Certains disent que c'est juste pour rater les cours, mais moi, enfin, pour moi par exemple, pour nous, je trouve que c'est vachement important et je pense que ça peut peut-être marquer plus les esprits.
Il faut commencer maintenant. On est là, c'est à nous sauver la Terre.
C'est à nous sauver la Terre, pas aux vieux.
Et à deux jours des élections européennes en France, ce qui revient le plus souvent, c'est l'impossibilité de voter pour ces jeunes manifestants. La mobilisation d'aujourd'hui a d'autant plus de sens, dit cette lycéenne.
En fait, nous, on n'a pas le choix. Donc, en fait, notre seul choix, c'est de venir en manifestation pour exprimer nos idées. Parce qu'on peut pas voter. On est quand même des citoyens et c'est nous qui allons vivre sur la Terre dans le futur. C'est pas forcément les gens qui sont en âge de voter. Donc, pour moi, c'est très important d'être là. Et, oui, aller en manif, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux pour les...
Dans le cortège des drapeaux Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise ou le Parti Communiste, tous avec leur tête de liste, rien d'incompatible avec le mot d'ordre du jour, estime Johan du collectif Youth for Climate.
Ça dépend des partis, j'ai envie de vous dire. La France Insoumise défend un programme écologique plus que correct. Donc ils ont leur place dans une manif écolo comme n'importe quel citoyen qui est engagé pour l'écologie. Mais quand on voit que par exemple Monsieur Jadot dit que l'économie de marché n'est pas incompatible avec l'écologie, ça c'est quelque chose qui pose problème.
Quelques profs, retraités, parents sont venus en soutien dans cette marche joyeuse, pleine de sourires scintillants des appareils dentaires. Mais un jeune nous l'assure, on ne va pas sourire longtemps si les politiques continuent de nous entendre sans nous écouter.
Merci Solène Cresson, reportage donc à Paris. Pour information, ils étaient 320 000 en Allemagne à manifester pour le climat, chiffre donné par les organisateurs de cette marche mondiale. Pas de décriminalisation de l'homosexualité au Kenya. La haute cour du pays a rendu son verdict cet après-midi, estimant qu'une telle décision ouvrirait la voie à des unions entre personnes du même sexe. Elle rejette, cette cour, la plainte introduite par les militants des droits LGBT contre deux lois du code pénal, des textes datant de l'époque coloniale qui condamnent à 14 ans de prison toute personne ayant des relations homosexuelles. À Nairobi, Charlotte Simonard.
C'est une énorme déception pour les membres de la communauté LGBT. La salle d'audience était comble ce vendredi. Elle s'est vidée en quelques minutes après le verdict. Tous croyaient au miracle, mais la justice en a décidé autrement. Elle estime que les articles du code pénal interdisant les relations entre personnes de même sexe ne peuvent être jugés inconstitutionnels. Les activistes kényans n'ont pas apporté de preuves suffisantes prouvant qu'ils sont bel et bien discriminés dans la société, argumentent les juges. Ils ont rappelé au préalable les différentes décisions de justice rendues en faveur des homosexuels en Inde récemment et dans bien d'autres pays du monde. Mais la Cour souhaite que le Kenya ait sa propre juridiction en adéquation, dit-elle, avec les valeurs de la Constitution qui autorise le mariage entre deux personnes de sexe opposé uniquement. Le 24 mai 2019 ne fera donc pas date dans l'histoire du Kenya. Un vent d'ouverture soufflait pourtant sur le continent après que l'Angola a décriminalisé l'homosexualité en janvier dernier. Le Kenya décide donc de garder sa loi coloniale britannique condamnant les homosexuels à 14 ans de prison.
Charlotte Simonard à Nairobi. En France, un risque de pénurie de corticoïdes ces temps-ci inquiète le corps médical. À la base d'un nombre important de solutions médicales, les corticoïdes sont absolument nécessaires évidemment pour certains patients, d'où l'inquiétude du professeur Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il a lancé une pétition cette semaine sur le site change.org. Le texte a été adressé à Agnès Buzyn. Bonsoir Maud Calves.
Bonsoir.
La pénurie serait due aux industriels du secteur pharmaceutique. Ils sont convoqués, ont été convoquées par l'Agence nationale de sécurité du médicament en début mai.
Oui, plusieurs hypothèses circulent. La faute à un médicament pas assez rentable et donc moins fabriqué pour l'auteur de la pétition, ou encore des pénuries de matières premières selon les pharmaciens. Les conséquences restent les mêmes pour certains patients de Francis Birenbaum, le médecin rhumatologue à l'origine de la pétition.
J'ai une patiente qui a besoin de 30 mg par jour et ne trouve que des boîtes à 1 mg. Donc ça veut dire 30 comprimés par jour.
Les corticoïdes interviennent pour des sinusites, des otites ou des maladies bien plus graves comme la sclérose en plaques. Dans les pharmacies, la situation devient compliquée. Alain Delgutte, président du Conseil central de l'Ordre des pharmaciens.
On téléphone au grossiste, on va chercher dans tous les génériqueurs est-ce qu'il n'y en a pas un qui serait disponible sur le marché. Ensuite, on va téléphoner à nos confrères autour. Est-ce qu'il te reste encore un petit peu de prednisolone, n'importe quel dosage, c'est pour un patient. Voilà. Le pire, je crois, c'est pour les patients qui ont besoin de ce traitement et qui se disent, j'ai plus que 2 jours de traitement ou 3 jours. Si j'ai pas mon traitement, comment ça va se passer? Est-ce que ma maladie va reprendre? C'est peut-être ça qui est le plus dur à vivre, plus que le temps perdu à chercher une solution pour ce patient.
Christelle Ratigné-Carbonneil, directrice générale adjointe de l'Agence nationale de sécurité du médicament, tient à rassurer, ce n'est pas une pénurie.
Il y a toujours une offre de médicaments corticoïdes en France, avec des plus ou moins des difficultés d'accès. Et donc l'information la plus importante, en effet, et que nous avons souhaité communiquer dès hier, c'est qu'il y a une mobilisation de stocks supplémentaires qui va permettre, donc au niveau national, de couvrir les besoins des patients. Et on a une prévision jusqu'à la fin de l'année 2019.
En France, plusieurs millions de patients ont besoin de ces corticoïdes. La NSM assure que d'ici fin juin, tout sera remis en ordre.
Merci beaucoup, Maude Calves. 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec une sordide affaire maintenant, semblant tout droit sortir d'un mauvais roman sur fond de France-Afrique. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir.
De la cellule d'investigation de Radio France, c'est vous qui signez l'enquête de cette édition qui nous emmène en Haute-Savoie sur les lieux de l'assassinat d'un homme retrouvé mort en mars dernier, Daniel Forestier, ex-agent de la DGSE.
Oui, alors il faut savoir que la victime, Daniel Forestier, avait précisément travaillé 14 ans au service action de la DGSE. C'est un homme au passé militaire qui, à 41 ans, s'était retiré dans une petite commune de Haute-Savoie, à Lucinge. Là, il s'était fait discret, il avait acheté un bar tabac et il s'était fait élire sur la liste du maire, Jean-Luc Soula.
Moi, je retiens le copain, voilà, qui m'a aidé à devenir maire, qui m'a voilà soutenu dans ma petite campagne électorale. Il était un peu mon monsieur défense quand on faisait des événements pour le 11 novembre. C'est lui qui était un petit peu le chef d'état-major de ce genre d'événement. Marqueur pour lui, quoi. C'était son côté républicain, militaire. Et c'est ce qui nous rapprochait.
C'est donc un homme en apparence tranquille qui a été exécuté le 21 mars dernier. Mais alors que s'est-il passé, Philippe ?
Eh bien, début 2018, la DGSI, les services du contre-espionnage, reçoit un renseignement de Prague l'informant qu'un groupe de mercenaires français serait en train de se former pour assassiner le général Mbaou, un opposant au président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. L'homme s'est réfugié ici en France, à Bessancourt, dans le Val-d'Oise, et on leur dit que Daniel Forestier serait impliqué dans ce complot. La DGSI se rend donc au commissariat d'Annemasse et entend Daniel Forestier qui confirme tout. Il précise qu'on lui aurait proposé 400 000 euros. Il avait commencé à s'occuper de la logistique de l'assassinat. Résultat, il est mis en examen. Et pour Norbert Tricot, l'avocat du général Mbaou, c'est bien parce qu'il en savait trop et qu'il avait parlé qu'on aurait voulu le faire disparaître.
Nous considérons qu'il y a une volonté de faire disparaître des preuves. Daniel Forestier, c'est un élément important de la chaîne de commandement et d'exécution de la tentative d'assassinat contre le général Ferdinand Mbaou qui disparaît.
Et en toile de fond de cette affaire et de cette chaîne, Philippe Reltien, il existe une rivalité légendaire entre le président congolais en exercice, Denis Sassou Nguesso, et le général Mbaou.
Oui, et une rivalité qui remonte à loin, lorsque Sassou Nguesso a pris le pouvoir à Brazzaville, alors que le général Mbaou le briguait lui aussi en 1997. Et le résultat, c'est que Mbaou vit aujourd'hui en France dans la crainte permanente d'être assassiné. Et ce, d'autant plus qu'il a déjà été victime d'une tentative de meurtre en 2015. Un homme lui avait tiré dessus, la balle est d'ailleurs toujours fichée dans son dos. Du coup, la révélation d'un deuxième complot l'inquiète encore plus.
La première fois, j'aurais dû mourir si le bon Dieu n'avait pas mis la main. Et puis ça a continué. Donc, je doute un peu, je ne peux pas me sentir en sécurité si ça fait 2 fois qu'on attente à ma vie sans que j'aie la protection et sans que les autorités ne disent mot.
Et pour savoir s'il y a un lien entre la tentative de 2015 et l'affaire qui a coûté la vie à Daniel Forestier, il demande à être entendu par la justice.
Je veux, je tiens, j'exige même de rencontrer le juge de manière à ce qu'on ait la possibilité, un, de comparer la balle qui est dans mon corps et les autres balles pour la situation de M. Forestier. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que j'ai le portrait robot
de votre agresseur,
de
le
mon
10
agresseur
novembre.
De 2015.
En attendant, un complice présumé de Forestier, Bruno Susini, a lui aussi été mis en examen et les enquêteurs essaient d'identifier un troisième membre présumé du commando, un homme qui avait fait des repérages avec Daniel Forestier et qui a mystérieusement disparu.
Merci Philippe Reltien. Votre enquête en intégralité est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. À Lyon, l'explosion dont nous parlions plus tôt dans le journal serait due à un colis piégé. C'est du moins ce que soupçonne le parquet de Lyon qui s'est saisi de l'affaire. Pas plus de précision pour l'instant, l'explosion a eu lieu il y a une quarantaine de minutes. La rue Victor Hugo, proche de la place Bellecour où a eu lieu cette explosion, a été évacuée. Elle est actuellement bouclée. La météo avec un retour de la pluie qui sera effective dans les prochaines heures sur une grande partie de la France métropolitaine. Ce samedi sera partout gris. Température maximale de 16 à 20 degrés jusqu'à 24 à 26 degrés du côté de la vallée du Rhône.